bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA 107.5. On est bien content de vous retrouver en ce dimanche matin pour discuter d'astronomie à l'antenne. Aujourd'hui, dans le studio, nous sommes trois. Fred qui vous parle, Axel et Pierrick.
Bonjour.
Salut tout le monde.
Alors, on espère que vous avez pu faire quelques observations à travers les nuages. C'était pas évident quand même ces 15 derniers jours. On vous rappelle que vous pouvez aller sur le site de RDIWA, rtwa.fr, émission thématique, puis l'étoile polaire pour voir un peu le podcast, hein, écouter les émissions précédentes et puis voir les photos que Axel ou Rémi ont prises pour illustrer ces podcasts. On vous rappelle aussi que vous pouvez nous joindre sur, par mail astro-rdwa@protonmail.com si vous avez envie d'échanger avec nous, si vous avez envie de venir participer à l'émission pour parler d'astronomie dans la rubrique Nouvel Oeil. Voilà, tout ça est possible, on est à votre écoute. Alors c'est le 63e épisode de l'Étoile Polaire. Et le sommaire de cet épisode. On va commencer comme d'habitude par le ciel ce soir. Ensuite, on aura une petite actu. Ensuite, ce sera la chronique spatiale. Pierrick, tu vas nous parler de SOHO.
Oui, du satellite SOHO qui est toujours en activité.
Et qui observe le Soleil.
Et oui, qui est autour du Soleil.
Voilà, et ensuite, Axel, tu en profiteras pour nous parler un petit peu de l'observation du Soleil du point de vue des astronomes amateurs.
Oui.
Après la pause musicale, ce sera la rubrique à braque. Donc Axel, là, tu as des anecdotes à nous raconter.
Oui, de petites anecdotes historiques sur lesquelles je tombais qui m'ont fait rire.
Mmh. Et pour terminer, donc, ce sera la rubrique à broc, hein, puisqu'il y en a deux, où je vous parlerai de la guerre des satellites. On peut appeler ça comme ça. En tout cas, les activités militaires plus ou moins cachées qui peuvent avoir lieu en orbite au-dessus de la Terre. Voilà pour ce sommaire. Alors, on va commencer avec le ciel ce soir. Donc, voilà, mais toujours cette histoire quand même de ciel extrêmement nuageux. Moi, là, j'avoue, ça faisait quasiment bien 10 jours que je n'avais pas pu voir le ciel du tout à cause des nuages. Là, hier, l'autre soir, il y avait une petite éclaircie. J'ai pu voir quelques étoiles. Et je me suis fait vraiment la réflexion que même en 10 jours, en fait, le ciel, il tourne, quoi. Si on l'observe pas du tout, parce que si on l'observe tous les soirs, bon, c'est moins clair. Oui, c'est un peu comme les enfants qui grandissent.
Ouais, c'est ce que je veux dire, comme un copain qu'on connaît depuis longtemps.
On voit bien grandir les enfants des autres, mais les nôtres, c'est un peu plus, peu moins évident. Et pour le ciel, c'est un peu pareil. Alors là, quand la nuit tombe, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit la grande ours qui est quasiment à l'envers, à l'horizontale, presque. Avec de l'autre côté, par rapport à l'étoile polaire, on a Cassiopée qui du coup rase l'horizon.
Ouais. Vraiment un W du coup.
Oui. Ouais. Et ensuite, on voit très bien le cocher avec Capella, bien brillante à l'ouest.
Ouais.
Pour Orion, c'est vraiment dans les lueurs du couchant. Ensuite, on a pareil pour le Taureau. Qui se couche très vite.
Ouais.
On voit par contre bien les Gémeaux, Castor et Pollux, qui se détachent bien sur le fond du ciel. On a le lion aussi, là, qui lui est vraiment quasi, pas au zénith, juste un peu en dessous, mais en tout cas bien central.
Ouais, au méridien.
Ouais, au méridien, bien central dans le ciel. Avec sous le lion, là, une zone un peu sombre avec des étoiles faibles. On en avait parlé. La dernière fois, Axel, tu avais parlé de cette constellation qui est l'Éridan.
L'Hydre.
L'Hydre, voilà. Qui est très étendue et qui dessine une espèce de comment on pourrait dire, de vaguelette pointue. Voilà. Et ensuite, si on part un petit peu vers l'est, toujours en prolongeant là, cette courbe, cet arc de la Grande Ourse, on arrive sur Arcturus, étoile orangée bien brillante dans le Bouvier. Et voilà à peu près le ciel qu'on a en début de soirée, en réalité. Et ensuite, eh bien, quand la nuit va continuer à se dérouler, on va avoir l'apparition, cette fois, du ciel d'été, avec derrière Arcturus, eh bien, on aura la couronne, on aura Hercule, et puis petit à petit, le triangle d'été.
La Lyre.
Ouais. Voilà,
la Lyre. Vega qui arrive vers minuit, un peu avant minuit, on a Vega. Ouais.
Donc en deuxième partie de nuit, on a un avant-goût du ciel d'été. Concernant les planètes, alors c'est bien fini, bel et bien fini pour Jupiter.
Du coup, il faut se lever tôt, c'est ça ?
Et il faut se lever tôt. Les planètes, là, elles vont être observables le matin, donc basses sur l'horizon, ce qui veut dire peu propice pour l'observation aux instruments. Par contre, ça n'empêche pas à l'œil nu de les voir. Et là, on va se retrouver avec Saturne et Mars, qui, dans les lueurs de l'aube, vont être visibles. On a aussi Mercure, qui, au milieu du mois, là, va être au maximum de son élongation, c'est-à-dire la plus éloignée du Soleil, donc aussi, quelque part, la plus propice à l'observation, puisque ça nous laisse plus de temps entre le lever et le lever du Soleil, en fait, pour l'observer. Et voilà pour les planètes.
Okay.
Et pour ce ciel de printemps.
De début mai.
Yes. Voilà, toujours avec quand même, moi j'avoue, je trouve que depuis l'été dernier, là, on a une période qui probablement est la moins faste pour l'observation que j'ai pu connaître depuis longtemps. C'est on terrible. A quand même une quantité de nuits nuageuses, couvertes ou au moins bien voilées qui est supérieure à ce qu'on a pu observer les autres années. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne.
On
fait avec, hein.
J'ai fait 3 images depuis 6 mois.
C'est ça. Non, mais c'est vrai, on a quasiment pas profité du ciel d'hiver. Ouais. Un petit peu, mais franchement rapide.
Court, ouais. Ouais, ouais.
Alors que c'est quand même un ciel qui est souvent, qu'on attend toute l'année.
Souvent, on a des périodes de sec, un peu de froid sec là, dégagé. Et là, on n'a pas eu ça.
Non, on n'a pas, ouais. Ouais, ouais. Pas eu ça. Bon. Voilà, donc un peu l'astronomie amateur est en berne, les télescopes prennent la rouille.
C'est le jeu.
Mais c'est le jeu, voilà. Voilà pour le ciel ce soir. Bon, ça n'empêche pas de quand même essayer de percer les nuages avec nos yeux aiguisés pour essayer de voir quand même des choses. Et on espère que ça va un peu s'améliorer. Bon, on est aussi content qu'il pleuve, hein, c'est pas le sujet, mais voilà. Alors, on va passer aux actualités. Enfin, on a une actualité, Axel, dont tu voulais nous parler.
Ah oui, une petite actualité qui met mon cœur en berne aussi, outre le mauvais ciel, la mauvaise météo. C'est la rencontre d'astronomes amateurs réputés nationalement, Astrociel, qui avait lieu à Valdrome depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans, je crois. Et comme vous le savez sans doute, la station de Valdrome est en vente. Et ils n'ont pas pu assurer cette année, pour cet été, les quelques exigences que demande l'organisation de ce festival d'astronomie, cette rencontre d'astronomes. Et donc, ils n'ont pas eu d'autre choix, la SAF qui organise ça, la Société Astronomique de France, que de déménager et de partir dans le Gard. Ce sera maintenant Astrociel, en tout cas cette année, c'est dans le Gard à Lannuéjol. Et c'est comme ça, c'est dommage.
Oui, c'est très dommage.
C'est l'année où le Vercors a son label de réserve de ciel étoilé. D'ici peu de temps, les baronnies aussi devraient avoir leur label, qui d'ailleurs, ils avaient poussé, je leur avais incité à pousser les limites de leur zone labellisée jusqu'à Valdrome, puisque ça allait jusqu'à La Motte à peu près. Et voilà, et pendant les réunions de préparation, de construction de ce dossier, de ce label, on s'était dit peut-être pousser jusqu'à Valdrome, parce que quand même il y a Astrociel, ça fait pas très loin de La Motte à vol d'oiseau. Et au final, il n'y aura plus cet événement à Valdrome, en tout cas pour l'instant, à voir qui reprend et que deviendra cette station.
Mais c'est encore une autre question.
Oui.
Il y a très peu de chances que ce soit destiné à l'astronomie.
Non.
Nous, on n'a pas les sous pour l'acheter.
Ouais.
On aimerait bien.
Mais ça peut être quelque chose qui permettra quand même d'accueillir les astronomes. Ouais.
Ouais.
À voir.
À suivre.
Voilà, en tout cas, pour cette année, pour Astrociel, c'est raté. Donc le seul rendez-vous d'astro du DIWAB, ce sera nous, à Marignac, le 3 août. Samedi 3 août à Marignac. On en reparlera.
On en reparlera et on espère bientôt. Qu'il fera beau.
Ouais. Que le vent est tourné.
En tout cas, on perd cette rencontre dans le DIWA. Alors c'est un peu triste pour le DIWA parce qu'il y a énormément de gens, enfin quand même beaucoup de gens qui ont un moment ou un autre participé à ces rencontres, même s'ils n'étaient pas forcément astronomes amateurs eux-mêmes, mais qui ont pu découvrir un peu l'astronomie amateur, mettre l'œil à l'oculaire pour la première fois. En fait, il y a plein de gens du coin qui ont fait de l'astro pour la première fois là-bas. Donc il y a quand même sur le territoire, c'est dommage de perdre ça. Après, c'est le Gard qui gagne quelque chose, donc c'est pas perdu pour tout le monde. Heureusement que, enfin, ce qui est bien, c'est que ça continue quand même.
Si
c'est pas pour nous, tant pis. Au moins ça continue. Et effectivement, on espère pouvoir réaccueillir l'événement dans la suite. On verra bien.
D'ailleurs, ils seront dans une zone RICE, une réserve de ciel étoilé, celle des Cévennes. Réserve de ciel étoilé des Cévennes.
Ok.
Voilà.
Ok. Alors, on va passer à la chronique spatiale de Pierrick, qui cette semaine nous parle de SOHO.
Du satellite SOHO. Ouais. SOHO, c'est un satellite qui, ça veut dire Solar and Heliospheric Observatory. Donc, c'est un raccourci de ça. Donc l'héliosphère, c'est l'espèce d'atmosphère qu'il y a autour du Soleil. Et donc ce satellite est allé observer le Soleil et son atmosphère. Donc il est parti en 1995 et il est venu se placer au point de Lagrange L1 du système Terre-Soleil. Donc le point de Lagrange, c'est un point d'orbite stable, un point où l'attirance des deux corps est à peu près stable. Et du coup, il y a peu de manœuvres à faire pour garder cette orbite. Il y a peu de carburant à brûler. Techniquement, c'est assez simple de garder une orbite sur ces points de Lagrange.
C'est des points où les champs gravitationnels s'annulent. Donc, c'est-à-dire que la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil et par la Terre sont égales. Et du coup, il y a 5 points de Lagrange, il me semble. Il y en a 3 stables et 2 instables, ou l'inverse.
Ouais, c'est ça. Et les 2 premiers sont stables et les 3
instables.
Ouais. Non, c'est l'inverse. Les 2 premiers sont instables et les 3 autres sont stables. En tout cas, il y a aussi le James Webb télescope qui est sur un point de Lagrange.
Ouais.
Et voilà, ça arrange tout le monde parce que c'est une histoire d'économie de coûts. Hein. Tu gardes ton orbite facilement. Avec peu de carburant, tu arrives à garder une orbite très longtemps.
Et du coup, c'est aussi une question de durée de vie. Parce que tu as une quantité d'énergie embarquée qui est limitée.
Oui.
Moins tu manœuvres,
plus
longtemps tu peux faire durer
ton satellite. Tout à fait. Et ce satellite, il était prévu pour durer 4 ans. Et finalement, en 2025, tous ses instruments ne marchent pas, mais il est toujours opérationnel.
30 ans après.
Ouais. Donc... jusqu'en 2025, ce qui est prévu, peut-être qu'ils vont encore prolonger, à voir. Du coup, il embarque 12 instruments. Alors, ça va du coronographe, on en reparlera avec Axel, cet instrument qui occulte juste le disque solaire et qui laisse l'atmosphère visible autour du Soleil. Voilà, donc il y a plein d'instruments. Il y a aussi un instrument de sismologie du cœur, là, c'est un espèce de sonar qui envoie des ondes radio et qui les répercute, qui les retourne à lui pour analyser les passages de couches à l'intérieur du Soleil, parce que l'onde, elle change de fréquence. Voilà, plein d'instruments. Et du coup, voilà, ils ont lancé ce satellite. Il est à peu près à 1,5 million de kilomètres de la Terre en direction du Soleil. Et il fait une orbite en forme de haricot. Donc des fois, il est plus proche, puis des fois, il s'éloigne du Soleil. Voilà. Et alors, quand ils l'ont lancé en 1995, il a bien marché jusqu'en 1998, où le contact a été perdu pour des raisons obscures que personne n'a clairement identifiées. En tout cas, l'orientation même du satellite n'était plus bonne. Il n'était plus dirigé correctement. Parce que dans ces endroits de l'espace... c'est un peu partout pareil dans l'espace, mais quand on regarde le Soleil, c'est plus de 100 degrés. Mais à l'ombre du Soleil, on est à moins 150 degrés. Et tous les instruments sont prévus pour des températures stables. Ils ne sont pas prévus pour passer de plus de 100 à moins 150 rapidement. Et donc, il y a eu un problème. Voilà, le satellite a tourné. Et pendant plusieurs mois, ils ont perdu le contact. Jusqu'à ce que, grâce au télescope d'Arecibo... un feu Arecibo,
ah oui, aussi.
qui n'existe plus maintenant, mais qui à l'époque, et grâce à sa grosse antenne, ils ont pu récupérer un contact.
J'allais dire, c'est celui dans Contact, justement. Vous pouvez le voir dans le film. Et GoldenEye aussi.
Et GoldenEye, ouais. Et en retrouvant le contact, ils ont réussi à le tourner. Parce que les réservoirs à propulsion avaient gelé. Donc, ils ne pouvaient plus bien le manœuvrer, mais ils avaient quand même des espèces de propulseurs à poids. Là. Je ne sais plus le nom des choses qui tournent à l'intérieur et qui permettent de manœuvrer sur son axe.
Ouais. Et donc, utilisant la gyroscopie.
Des gyroscopes, ouais, voilà. Ouais. Et grâce à ça, ils ont réussi à un peu le tourner et du coup, ça a un peu dégelé. Et à force, ça a complètement dégelé, ouais. Et il s'est mis à remarcher normalement. Donc voilà, c'était une petite prouesse quand même technique. Et donc, comme je le disais, malgré ça, il continue à être opérationnel et à prendre plein d'informations sur le Soleil. Donc, c'est un satellite qui a été... c'était le premier qui étudiait le Soleil. Donc, il y a eu plein d'analyses et de choses nouvelles qui sont sorties. Il y a eu des millions de clichés. C'était un gros tracker de météorites. Parce qu'il y a... De météorites, pardon, de comètes. Parce qu'il y a beaucoup de comètes qui sont en orbite autour du Soleil, quasi toutes mais d'ailleurs.
Toutes les comètes, un des ouais. foyers de leur orbite, c'est le Soleil.
Ouais.
C'est les orbites elliptiques dont un des foyers est le Soleil. Donc ouais. de toute façon, elles viennent toutes frôler le Soleil à un moment ou un autre.
Voilà, alors il y en a qui tournent autour du Soleil, qui repartent et qui reviennent, voilà. Mais il y en a aussi beaucoup qui vont se cracher dans le Soleil mmh. et qu'on ne voit pas forcément depuis la Terre. Et du coup,
ils sont vaporisés en s'en approchant trop.
Ouais. 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 Et donc, il a découvert plus de 4000 comètes. Donc, ouais. Il y a toujours en fait un bout de glaçon qui vient se fondre au Soleil. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'analyses de fait. Je voulais parler de la couronne solaire. Voilà. Et en fait, la couronne solaire, c'est une partie de l'atmosphère du Soleil qui est visible du coup avec un coronographe. Donc un coronographe, voilà, ça occulte le disque solaire et permet de faire apparaître l'atmosphère qui est au-dessus de ce disque. Et la température dans cette couche est de 2 millions de Kelvin, alors que sur la surface du Soleil, c'est 5000 Kelvin. Donc là, il y a une énorme hausse de température qui n'est pas expliquée, même avec des nouvelles données, c'est pas très clair encore. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est en étude. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Il y a énormément de jets de plasma. Il y a plein de théories. C'est pas très clair. En plus, au début, ils pensaient que c'était dû à du plasma ionisé, donc qui chauffait, mais en fait, apparemment, peu. Donc là, il y a une nouvelle sonde, c'est Parker Solar Probe, qui est en orbite autour du Soleil et qui commence à... avoir des nouvelles analyses, donc peut-être ils en sont en plus là-dessus, mais pour l'instant ça c'est pas clair. Voilà, il y a encore beaucoup de questionnements sur ce Soleil. De quoi je voulais parler, je crois que ça y est, hein. Voilà, j'ai fait le tour, c'est bon.
Yes, merci.
Et ben merci,
t'as fait le tour du Soleil.
Voilà.
Bon anniversaire. Eh ben, moi, je peux parler un petit peu de, avant la pause musicale, ouais, pendant qu'on parle du Soleil, parler de qu'est-ce qui se fait en astronomie amateur avec le Soleil. Alors, il y a différentes façons de l'observer. Alors, tu as parlé du coronographe. Je vais commencer par celui-là, mais parce que c'est celui que je connais le moins et que je n'ai jamais utilisé. Mais le coronographe, c'est en gros, on prend le télescope et on met une gommette... de la taille du Soleil en apparence dessus, qui va nous masquer précisément tout le Soleil, vraiment un masque, une éclipse artificielle, et ça va nous révéler ce qu'il y a autour du Soleil. En fait, il y a beaucoup de science à faire pendant les éclipses, sauf que l'éclipse, et en plus ce qu'on appelle la totalité, le moment où l'éclipse est totale, ça dure quelques secondes, et donc même s'il y en a tous les 2-3 ans à différents endroits du globe, pour ceux qui ont besoin d'analyser ces données qui sont accessibles qu'à ce moment-là, voilà, ça fait un laps de temps assez court. Donc on a inventé ça, les coronographes, et qui permettent de masquer le disque et de voir le tour, la couronne solaire, d'où le nom. Tu voulais dire quelque chose ?
Je voulais juste, ça me fait penser que si on fait ça avec un télescope, c'est hyper dangereux parce que le soleil se déplace et du coup assez vite.
Oui,
du
oui.
Coup,
on, ah bah oui, il faut se brûle les yeux. Parfait. Oui, c'est pour ça que c'est assez peu utilisé en science. Oui, mais chez les amateurs, beaucoup moins. Fred, tu as pu en utiliser un à Anyan, dont tu nous parlais là, il y a deux semaines.
J'ai parlé dans la dernière émission. Ouais. Effectivement, Anyan était équipé d'un coronographe. Il faisait que ça, le coronographe. Ce n'était pas un télescope oui. Qui, à un moment, on le bidouillait pour ajouter un truc. Ah, oui. Non, c'était dédié, quoi. C'est, oui. C'était jamais démonté, en fait.
C'est ça, oui, oui.
Une fois que c'est réglé, tu touches plus quoi.
D'accord.
Effectivement, c'est assez sensible parce que bah oui, hein, on le sait. Hein, si on observe le soleil à travers un instrument d'optique, que ce soit des jumelles, ça suffit. Hein, ou même une petite lunette et encore pire avec un gros télescope, bah, on se brûle la rétine et puis on devient aveugle et voilà.
En moins d'une seconde.
Donc en fait, effectivement, c'est extrêmement sensible au niveau du réglage.
Et oui, c'est vrai que j'aurais pu commencer par dire ça, quelques précautions à prendre, n'observez pas le soleil sans instrument adapté ou quelqu'un qui s'y connaît.
Oui, ouais, n'observez jamais le soleil, ne pointez jamais une paire de jumelles vers le soleil, et jamais.
Oui. Ah bah oui.
Et d'ailleurs, on fait souvent ça quand on anime, hein, on pointe le soleil avec une petite lunette et en fait, là où à la sortie de l'oculaire, là où on met l'œil, on fait mettre la main où on met une feuille de papier et on l'enflamme.
Ah oui, oui.
Donc c'est simple, c'est ce qui se passe sur votre œil. Vous amusez jamais à observer le soleil avec n'importe quel instrument d'optique.
J'aurais peur de cramer les lentilles.
Mais c'est vrai, parce qu'avec une loupe, on arrive à faire brûler du papier.
Donc c'est ça.
Mais c'est la même chose. C'est encore plus puissant qu'une loupe. Oui.
Donc passons sur le coronographe. Les deux autres techniques que je connais un peu plus, pour le coup, c'est d'utiliser des filtres qui vont laisser passer qu'une petite partie de la lumière. Celui qui est assez accessible, le plus accessible pour les astronomes amateurs, c'est la feuille de Millard, donc une matière qui ressemblerait à de l'aluminium, mais encore une fois, ne faites pas ça avec de l'aluminium, ça ne marchera pas, mais avec une feuille adaptée en Millard, spéciale astro, là on va laisser passer, je crois que c'est 1% de la lumière ou quelque chose comme ça, 1% de la lumière du soleil. Il y en a exprès pour la photo, où là, du coup, les capteurs sont un peu moins sensibles que nos yeux, et donc on peut descendre, on peut garder 4% de la lumière, je crois. Mais bon, parlons en visuel, en tout cas, voilà, on utilise ces feuilles qu'on appelle de pleine ouverture, parce qu'on va les mettre sur toute l'ouverture du télescope.
On les met à l'entrée du tube,
lunettes ou télescope. Et donc une toute petite partie de la lumière passe, et ça nous permet de voir le soleil. Ça donne une couleur blanche. Le ciel, ce qui est souvent surprenant pour les gens, c'est que le ciel qui est bleu quand on observe le soleil en pleine journée, ben là il apparaît noir avec le filtre en Millard, parce que justement on coupe tellement de lumière que rien ne passe, et d'ailleurs même avec une ampoule, pour voir une ampoule à travers le filtre, on voit rien. Il faut vraiment la puissance du soleil dans un télescope pour arriver à passer ce filtre qui bloque presque toute la lumière. Ouais.
C'est vrai que ça donne une teinte un peu blafarde en fait, voilà. au soleil.
Et ça nous permet de voir surtout les taches solaires. Les taches solaires qui sont des endroits de tempête magnétique où le magnétisme est si énervé qu'il empêche la chaleur interne du soleil de sortir à cet endroit-là. Ça donne des endroits un peu plus sombres, un peu moins lumineux, voilà, qui apparaissent noirs avec ce filtre qui, en vrai, sont excessivement brillants. Mais c'est pareil, si vous prenez un petit briquet dans une pièce sombre, il va beaucoup éclairer. Si vous le mettez dans l'axe du soleil à l'œil nu comme ça, vous verrez à peine la flamme. Et bien, c'est un peu le même principe. On pourrait voir avec une ampoule le filament si on regardait en plein jour une ampoule pas très puissante. Et pourtant, elle brille. Donc c'est le même principe. Voilà, on voit ces taches sombres qui sont en fait très brillantes.
Un peu granuleuses.
Et ouais, il y a la partie ombre très noire, la partie pénombre autour un peu plus grisâtre, et puis après le soleil qui apparaît blanc sur tout le reste. Et par contre, on voit aussi la granulation du soleil sur tout le disque avec ce genre de filtre. Alors ça, après, ça va dépendre de l'instrument qu'on utilise avec. Mais voilà, en tout cas, ça c'est très accessible, puisqu'une feuille A4 de Millard, ça coûte peut-être 15 ou 20 euros. On se fabrique un petit filtre avec ça, on met devant notre lunette.
Là aussi, quand même, faire gaffe qu'il n'y ait pas un trou dans la feuille.
Alors justement, il faut les vérifier régulièrement. Avant de les utiliser, on vérifie avec une ampoule, avec une lampe derrière. On regarde si on voit un petit point de lumière, c'est qu'il est foutu, il faut le changer. Voilà pour les filtres blancs, les filtres de pleine ouverture. Et puis l'autre qui est très intéressant, c'est les filtres H-alpha, qu'on appelle H-alpha. Et là, ça, c'est même pas 1% de la lumière du soleil qu'on garde, c'est encore moins. Et sur tout le spectre de la lumière, toutes les longueurs d'onde de lumière qu'il envoie, on va garder qu'une toute petite partie de l'ordre d'un nanomètre de longueur d'onde, même moins que ça, c'est en angstrom, c'est une division, un centième de nanomètre de la longueur d'onde, qui correspond à l'arrêt d'émission de l'hydrogène, l'hydrogène étant ce qui compose en grande partie le soleil, et qui nous apparaît en rouge. Et donc là, on va avoir le soleil qui apparaît rouge. On va moins voir les taches solaires, mais on va les voir un peu. On va bien voir la granulation, mais surtout, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on voit très bien les éruptions, les protubérances solaires, quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Pareil pour les taches, hein, d'ailleurs. Et voilà, toutes ces éruptions qui sont tout autour du soleil et qui sont assez chouettes à voir. Et puis surtout, quand on prend un peu en considération la taille de ce qu'on voit, et que même les plus petites éruptions, elles sont déjà 3 ou 4 fois grandes comme la Terre. Et ça, c'est assez impressionnant à voir. Ça coûte un peu plus cher. Les plus petites lunettes en hydrogène alpha, c'est de l'ordre de 1 500 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est tout de suite un autre budget. Et puis là, vous avez une lunette qui ne peut faire que ça. Alors qu'avec le filtre de pleine ouverture, c'est la lunette qui peut servir à toute l'astronomie et auquel on met un filtre. Le H-alpha, c'est dans sa conception. Elle a plusieurs filtres à l'entrée, à la sortie, enfin bon. Voilà, en tout cas pour découvrir le soleil en pleine ouverture ou en H-alpha, ben, je le rappelle, le 3 août à Marignac, vous pouvez venir nous voir, on aura probablement les deux. Voilà.
Mais merci Axel.
Je peux finir, je finis avec ça, je connais beaucoup moins, je vous en reparlerai à la rentrée parce que je vais sûrement m'équiper de ça, enfin moi ou à l'observatoire où je travaille, c'est le Solex, ils ont appelé ça pour Solar Explorer. Et qui est un spectrographe destiné aux amateurs, qui coûte assez peu cher. On a des lentilles à acheter, le reste à fabriquer en impression 3D. Donc soit on est équipé en impression 3D, ça coûte presque rien. Soit on le fait faire et ça coûte pas grand-chose dans un Fab Lab ou quoi. Et ça, on va le mettre au cul d'une lunette classique avec une caméra. Là, c'est pas fait pour observer dedans. La caméra va recevoir des données, mais ça ne va pas être non plus des images. Et on rentre ça dans un logiciel qui est fourni avec le Solex. Et là, on arrive à avoir des images du soleil, mais qui ont une qualité vraiment incroyable de précision.
Mais c'est un spectroscope ou c'est on obtient un spectre ou on obtient une image?
On obtient un spectre. On obtient un spectre et après, avec leur logiciel, grâce au spectre, on peut
reconstituer
une image et la voir du coup soit en hydrogène, soit en calcium, soit en oxygène, enfin différentes raies comme ça, et en les combinant toutes, on arrive à des détails vraiment impressionnants. Et donc le jour où j'ai ça et que j'aurai réussi à faire quelques images, ça illustrera très probablement un podcast.
Mais ça fait envie de découvrir ça.
Je vous en reparlerai en détail.
Super.
Voilà.
Et on va faire une petite pause musicale avant de poursuivre. Cette semaine, ce sera Yngwie Malmsteen avec son morceau Black Star. et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Alors après cette petite musique endiablée, on va poursuivre le déroulé de ce 63e épisode avec la rubrique Abrac. Et cette semaine, c'est toi Axel qui voulais nous parler, de nous raconter des anecdotes.
Ouais, il y a des... Je suis tombé sur un site que je vous invite à visiter si ça vous intéresse. Astroanecdotes au pluriel.com. C'est en anglais, mais bon, il y a pas mal de choses intéressantes ou marrantes dessus. J'en ai relevé deux là, et peut-être que j'y ferai d'autres tours prochainement. Mais j'ai envie de vous parler de cet événement, cet incident même, qui était arrivé à l'observatoire McDonald. Rien à voir avec le restaurant, ni avec le chanteur qui s'est produit à Woodstock. Mais le McDonald Observatoire, en 1970, au mois de février, il y a un nouvel employé qui arrive. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a eu de la pression de ses supérieurs, le travail ne lui plaisait pas, ou alors tout simplement il avait des problèmes psychiques, mentaux. Quoi qu'il en soit, il arrive pour travailler comme tous les jours à ce télescope qui fait quand même 2,70 m de diamètre, donc les gros télescopes comme ils savent bien faire aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est venu avec son 9 mm, il voit son patron et il lui tire dessus. Et juste après, qu'est-ce qu'il fait? 7 coups qui partent à bout portant sur le miroir du télescope directement comme ça.
Sabotage.
Voilà, du sabotage. Et alors le problème, c'est que des télescopes de ce diamètre-là, ça a quand même des gros... C'est des grosses lentilles, enfin des gros blocs de verre, et que même des coups d'arme à feu, en tout cas de 9 mm comme ça, ça suffit pas à le faire exploser. Donc, il est toujours pas content de son résultat, il est pas arrivé à le faire exploser, donc il s'empare d'un marteau, et pareil, il part taper sur le miroir directement. Assez vite, il se fait maîtriser par les autres employés qui travaillaient là ce jour-là. Et puis la police arrive. Et alors, je ne sais pas exactement ce qu'il a eu comme peine derrière. Il est parti en hôpital psychiatrique, je crois. Et voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour le télescope? Et bien, en fait, pas grand-chose. Ils ont continué à l'utiliser avec 7 petits trous dans le miroir primaire qui n'ont pas empêché plus que ça son utilisation. D'ailleurs, le chef de l'observatoire a dit juste après que peu après cet événement, il a fait les plus belles images de l'année d'un quasar. Enfin bon, voilà.
De là à penser qu'il va falloir tirer sur tout. Ouais, non,
prenez soin quand même de vos instruments. Mais... Mm. Et voilà. Et puis, ce qui est marrant, c'est que le policier, le shérif qui est intervenu, qui ne devait pas avoir de grandes connaissances en astronomie, il a vu le miroir, et c'est un télescope de type casse-grain, c'est-à-dire qu'on a le miroir primaire qui est percé au centre.
Dans son centre, ouais.
Voilà, et ça rebondit sur le secondaire en haut et qui renvoie au milieu, là où il y a les instruments, derrière le primaire. Et en fait, il a dit qu'il était cassé, qu'il y avait un gros trou au milieu du miroir.
Il y avait déjà un trou, ouais, donc qu'est-ce que vous me faites?
Et à cause de sa déclaration, il y a eu la rumeur pendant un moment dans les journaux et tout, que le miroir était bien cassé, et adieu le télescope et tout. Alors maintenant,
c'est la conception du télescope qui est comme ça. Mais c'est vrai que ceci dit, c'est un peu étonnant sur les casse-grains. Enfin, quand on découvre le principe, effectivement, oui. on a ce miroir primaire qui est troué en son centre, et ce qui n'empêche pas en fait du tout de faire des images. Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant, quoi, ce trou dans le miroir par lequel repasse la lumière pour aller vers les instruments ou les oculaires.
Donc voilà, a priori, c'est le seul télescope au monde qui a été victime d'une attaque à arme à feu.
Tant mieux.
Et tant mieux, voilà. Ça n'a pas beaucoup dérangé, comme tu disais, c'est pas une raison pour le faire ailleurs. Mais voilà, pour l'histoire du McDonald Observatory. Et puis une autre petite anecdote, on est encore aux États-Unis et tu sais qu'il y a deux choses qu'ils aiment bien, les Américains, quand même.
Les hot dogs.
Non, les armes à feu, comme on vient de parler.
Et les grosses voitures.
Et la deuxième chose, je vais en parler juste après. En fait, là, on parle cette fois de... Alors, je ne sais plus le nom de l'observatoire, je ne l'ai pas noté. C'était le Large Binocular Telescope, qui était deux miroirs de 8,40 m.
Oh.
Ouais. c'était en 2003 qu'il a été construit. Et évidemment, ces miroirs, ils n'ont pas été construits sur site, il a fallu les transporter. L'endroit où ils ont été construits, c'est à quelques heures de voiture de l'observatoire où ils allaient, mais évidemment, il faut prendre des précautions avec de tels appareils à transporter. Et donc, c'était un trajet sur plusieurs jours, enfin sur deux jours, je crois, avec ces énormes boîtes qui contenaient les télescopes. Et il y a une mode que j'ai appris au passage en lisant ça aux États-Unis, c'est de temps en temps, il y a des gens qui s'amusent à tirer sur les camions, les trains. Il y a une grosse boîte, ça donne envie de tirer dessus. Quoi.
C'est sympa comme activité.
Voilà.
On ne sait pas trop quoi faire. Oh, bon, on va tirer sur des trucs qui roulent.
C'est ça.
Ouais.
Bon. Mais c'est mieux que de tirer sur des trucs qui marchent que sur des gens qui marchent.
Sûr.
Ou des oiseaux qui volent. Mais non, là, c'est sur des boîtes qui le tirent. Et donc, l'équipe a réfléchi et s'est dit, bon, en un jour et demi, il y a quand même des chances qu'il y ait un débile qui tire sur les télescopes. Et là, ça serait dommage. Bon, il devait savoir qu'en 70, ça n'a pas trop dérangé pour le McDonald's. Mais bon.
Ah oui, donc c'est quand même quelque chose de commun. S'ils y pensent, c'est que quand même,
oui.
C'est commun.
Oui, oui, ils se sont dit, ouais,
c'est intéressant. C'est dommage. Culture, quand même. C'est ça,
et c'est là que rentre en jeu la deuxième chose que nos voisins outre-Atlantique adorent, c'est leur drapeau. Et donc, ils se sont juste dit, on va mettre 2-3 drapeaux sur le camion, parce que s'il y a un mec qui veut tirer sur la boîte, mais qui se dit, si je me rate, je tire sur le drapeau, je vais déshonorer le pays. Non, voilà. Du coup, ils sont arrivés sains et saufs, ces deux miroirs.
Ça sous-entend que les tireurs ont plutôt des sensibilités d'extrême droite.
En tout cas, ils sont fidèles à leur drapeau.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà,
okay.
Voilà. Et pour la petite blague en plus, c'est que pendant la nuit, ils sont arrêtés sur une aire d'autoroute, disons, pour passer la nuit. Et pendant la nuit, certains de l'équipe se sont amusés à mettre des stickers en forme d'impact de balle sur les boîtes pour qu'au lendemain matin, en se réveillant, il y en ait qui flippent. Enfin, voilà, on n'a pas exactement les détails de ce qui s'est passé et des réactions, mais voilà, ça c'était en 2003.
Mais c'est une bonne idée, se protéger avec un drapeau. ouais. C'est une idée à creuser.
Ouais. Voilà, okay. Un petit peu. Donc, merci à astroanecdote.com pour ces deux découvertes.
Merci, Axel. ça fait réfléchir. On va continuer donc après la rubrique à braque avec la rubrique à broc, hein, on a dit cette semaine. Donc, j'avais envie de vous parler de ce qu'on pourrait appeler la guerre des satellites. Donc, on sait qu'il y a énormément depuis qu'on a commencé un peu dans les années 60 à aller dans l'espace, on a mis en orbite quand même un certain nombre de satellites, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, je ne sais pas exactement le nombre, mais
10 000 à peu près. Voilà.
En même temps, quand tu vois les constellations, là, Elon Musk et compagnie. Voilà.
Justement, Elon Musk en a envoyé plus que toute l'humanité avant lui.
C'est ça, Oui, bon, on a déjà eu l'occasion d'en parler, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on est de l'ordre de grandeur de quelques dizaines de milliers. On va probablement, d'ici une dizaine d'années, avec le déploiement des 5G, arriver plutôt à l'ordre de 100 000. Voilà. En tout cas, on a tous ces satellites qui sont là. Évidemment, ces satellites, il y a, on va dire, deux grands types quand même de satellites. C'est les satellites civils et les satellites militaires. Mais quel que soit en fait le type de satellite, tous les lancements doivent être déclarés. Il y a quand même la communauté internationale qui surveille, enfin chacun surveille un peu ce que fait l'autre, etc. Et il y a quand même des règles. On avait déjà eu l'occasion de faire une émission là-dessus. C'est un État qui doit qui doit prendre la responsabilité du lancement d'un satellite. Il n'y a que les États qui peuvent le faire en fait. Donc voilà, donc on a tous ces satellites et en réalité, on a aussi, toujours on en avait parlé aussi, mais le traité de l'espace qui a été signé dans les années 60 et dans l'idée, sur des principes pseudo-humanistes qui sont plus ou moins respectés, mais l'idée c'est qu'on n'avait pas le droit de mettre des armes de destruction massive en orbite, des armes nucléaires en particulier. On n'avait pas le droit d'utiliser l'espace pour faire la guerre, en fait. Mais la réalité est un petit peu différente, bien évidemment, puisque si on n'a pas le droit de mettre, par exemple, un satellite en orbite avec des missiles pointés sur une cible sur la Terre, on a le droit de faire transiter des armes à travers l'espace. Oui. Donc voilà, donc déjà, ça commence. Oui, en fait, tout est... En fait, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, mais pas complètement quand même. En tout cas, moi, je voulais vous parler de ça parce que les satellites, en fait, d'un point de vue militaire, ils sont fondamentaux. Que ce soit pour le renseignement, enfin pour voilà l'observation, on sait qu'ils arrivent à avoir des images quand même très très précises des champs de bataille, enfin des scènes, des lieux où ils veulent intervenir. Ça permet de guider les missiles, ça permet plein de choses. Là, j'entendais parler il y a pas très longtemps un militaire français. Qui disait que, voilà, que, bon, évidemment, il ne voulait pas révéler la définition exacte des satellites, puisque c'est, là, c'est top secret, la définition au sens de quelle résolution, c'est ça. Ouais. Mais il disait, nous, ce qu'on a besoin de savoir, par exemple, c'est de voir si dans une voiture, les gens sont armés ou pas. Donc, ils en sont là, quand même. C'est-à-dire que depuis l'espace, ils sont capables, là, à l'heure actuelle, on ne parle pas de science-fiction, hein, de dire si dans cette voiture, il y a combien de personnes et est-ce qu'elles sont armées ou non. Donc on arrive quand même sur des trucs assez précis. Est-ce qu'ils sont capables de dire s'ils sont vivants ou pas ? J'en sais rien, mais c'est envisageable aussi. Une empreinte thermique, on ne sait pas.
C'est ça, ouais.
Donc en fait, y a la guerre actuelle, elle est quand même... les informations qui sont envoyées depuis l'espace, elles sont cruciales en réalité pour les opérations militaires actuelles.
Au sol, oui.
Donc il est bien évident que dans la perspective d'une guerre, il est dans l'intérêt de chacun des camps de pouvoir éliminer en fait, ou incapacité, ces satellites-là. Donc, c'est un peu de ça dont j'ai envie de vous parler. Alors, on peut commencer, en fait... toutes ces histoires-là de guerre entre les satellites, on appelle ça les activités ASAT, c'est-à-dire Anti-Satellite Activities. Et donc, voilà, ce terme de ASAT, il revient un peu partout quand on s'intéresse au sujet. Et en fait, on va voir qu'il regroupe... différentes choses. Ça a commencé en fait. Alors les Russes, hein, les Russes sont quand même assez actifs sur le sujet. Ils ont commencé en 1973 avec ce qu'ils ont appelé les satellites IS. Donc c'était une abréviation pour Istrebitev Sputnikov, ce qui veut dire destructeur de satellites. Donc c'est un programme qui a été. Ils l'ont officiellement abandonné en 93. Officiellement en tout cas, et c'était l'idée en fait d'envoyer des satellites qui étaient équipés d'une charge explosive et qui en fait allaient se rapprocher d'un autre satellite pour pouvoir exploser et pour pouvoir le détruire.
Mode kamikaze.
Ah oui. Donc ça a été un peu le premier type de guerre entre satellites en fait. Donc là on parle de choses qui ont lieu dans l'espace et c'est un peu la première chose qui a existé. Donc c'est officiellement arrêté en 93, non pas je pense parce que ils ont eu des remords ou des scrupules, mais plutôt parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées un peu plus intéressantes. Voilà, donc on va parler un peu de ça, et en particulier maintenant on a des missiles depuis le sol qui sont suffisamment précis pour pouvoir en fait détruire un satellite directement depuis le sol. Donc on parle d'un tir ASAT. Voilà, on envoie un satellite et on détruit. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir puisqu'il y a eu récemment des exemples de ça.
Chez les Russes, non, c'est ça.
Tout à fait. Okay. Ouais. Alors c'est pas pour faire de la propagande anti-russe et tout. J'en ai rien à faire. C'est vraiment pas le sujet. C'est juste que c'est un fait. De toute façon, les Russes dans l'espace depuis le début, enfin c'était les pionniers. Hein, on parle toujours des Américains et tout, mais ils avaient trois longueurs d'avance sur les Américains dans les années 60. Ensuite, ça s'est tassé. Mais au départ, ils étaient quand même extrêmement créatifs sur tout ce qui avait, ce qui avait rapport à l'espace. Quoi. Le premier type d'activité en fait, le plus simple en fait, et qui existe actuellement, on va dire, c'est l'espionnage. C'est-à-dire, c'est des satellites. Voilà, parce que j'ai commencé l'émission en parlant cette chronique en parlant de la différence entre les satellites civils et les satellites militaires. Le truc, c'est que quand vous envoyez un satellite et que vous le déclarez militaire, les autres savent que là, il y a un satellite militaire. Si vous envoyez un satellite civil, il est catalogué comme civil. Et c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même approche. Quoi. Donc là, l'idée, en fait, en particulier, les Russes l'ont fait récemment, c'était il y a 2-3 ans, ils envoient des satellites qui sont déclarés civils, et qui le sont, ils ne portent pas d'armement ou quoi que ce soit, mais ils les amènent sur des orbites proches de satellites militaires pour les espionner, en fait.
Oui.
Ils espionnent les satellites. Et du coup, donc ça, ça se fait beaucoup en réalité,
actuellement. Ils peuvent capter les données transmises ou des choses comme
Exactement.
ça.
Exactement. Ouais. Et pourquoi pas, alors, dans un second temps, imaginer les corrompre. Envoyer des signaux qui viennent brouiller, en fait, ce qu'a reçu le satellite.
Mais même les bloquer un peu physiquement aussi.
Alors, je vais y revenir. Il y a plusieurs stades. En tout cas, là, on parle juste déjà d'espionnage, en fait. Et ça, ça existe. Donc, du coup, la France a développé un projet qui s'appelle IODA.
Oui,
alors, c'est ça. L'acronyme, j'ai trouvé assez... Bon, vous jugerez par vous-même. IODA, ça veut dire « yeux en orbite pour un démonstrateur agile ». Ouais. Alors, moi, à mon avis, ils ont voulu vraiment l'appeler Yoda et après ils ont cherché. mais c'est pas génial. En tout cas, ce satellite, il existe. Et c'est une sorte de protecteur de satellite.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il est un peu plus haut. Donc là, on parle beaucoup d'orbite basse pour ce type d'activité. Donc, c'est-à-dire entre 300 et 200 et 2000 km.
Ah oui, ok. Pas jusqu'au géostationnaire.
Non, là en tout cas, de tout ce que j'ai pu trouver, on est quand même plutôt sur les satellites en orbite basse. Et donc voilà, on a ce satellite IODA qui est un peu plus haut et qui en fait surveille nos propres satellites pour être sûr qu'ils ne sont pas espionnés par des satellites qui viendraient s'approcher de trop près. Et ça a été le cas, en fait, depuis plusieurs années, où effectivement, ils voient des satellites, en particulier russes, qui s'approchent de satellites européens ou américains. Et on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais en tout cas, ils sont trop près à leur goût, ça les inquiète. Donc, ils ont quand même développé ce programme pour surveiller, en fait, leur propre satellite. Alors ensuite, on peut aller un peu plus loin dans la technologie. En particulier, là, alors il y a plusieurs exemples. Il y a le fameux satellite. Alors l'histoire des bras mécaniques, en fait.
Ah oui.
Donc ça a été mis en application, mais par exemple sur la station spatiale chinoise. À la base, c'est un bras mécanique qui va servir pour de la maintenance, qui permet d'attraper les choses. Et là, en fait, l'idée, c'est des satellites qui ont un bras mécanique. Donc, c'est des satellites civils, ils sont pas c'est pas une arme, le bras mécanique en soi.
Ouais.
Sauf qu'en fait, imaginez un satellite qui se rapproche d'un autre, qui sort son bras et qui l'attrape, en fait.
Et qui l'amène n'importe où.
Et qui fait ce qu'il veut avec. Ouais, ouais. Donc ça, en fait, c'est une technique de guerre, en réalité.
Oui. Et c'est civil parce qu'ils avaient annoncé ça en mode, regardez, comme on est écologique, on peut redescendre nos satellites usagés qui ne servent plus. On en a créé un qui peut ramasser les désorbiter.
Exactement. Et en réalité...
Ce qui est vrai, dans un sens.
Ce qui est vrai aussi.
Ce
qui est vrai aussi. Mais, voilà. Mais la question, c'est à quoi va servir vraiment, comment on va utiliser ce bras mécanique. Et la question est ouverte. En tout cas, il y a la possibilité de faire pas mal de choses offensives, en réalité, avec ce bras mécanique.
Bien sûr.
Donc ça, c'est une technologie qui est actuellement dans l'espace. C'est pas, là, je ne parle pas du tout de science-fiction, ni de futur. Là. Je parle de trucs qui existent maintenant. Donc il y a ça. Il y a une autre technique qui est assez intéressante qui s'appelle la technique des poupées russes. Mais parce que tout simplement, là aussi, c'est les Russes qui les premiers ont mis au point cette technique depuis quelques années. Ce n'est pas très vieux. Mais c'est l'idée d'un satellite civil qui part en orbite. Mais qu'en réalité, ce satellite civil en contient un deuxième, secret, qui est expulsé une fois dans l'espace. Et donc là, ils ont observé, en fait, là, c'est les Occidentaux qui ont observé ça sur un satellite russe. C'est-à-dire que ce satellite qui est éjecté du premier et qui, lui, a la capacité d'envoyer un projectile à grande vitesse. Donc ça, ils l'ont observé. Les Russes ont fait des manœuvres de ce type. Donc là, ils parlaient d'un petit projectile qui partait à 250 km/h. Alors dans l'espace, c'est des vitesses qui sont assez faibles. Mais ça suffit. Vitesse relative, j'entends. Ça suffit, en fait. C'est une arme. Vous pouvez tirer sur un autre satellite et puis vous le détruisez. Tout simplement, 250 km/h, ça suffit largement avec un petit projectile pour détruire un satellite. Donc là, voilà, c'est la technique des poupées russes avec un satellite civil, mais qui en fait cache un satellite militaire. Et ça existe aussi. Alors ensuite, on a aussi une autre idée, là, cette fois qui se passe depuis le sol. Ça va être des tirs laser. Donc l'armée dispose de lasers suffisamment puissants et précis pour tirer sur un satellite en orbite. Et là, il y a deux possibilités, soit pour l'éblouir, temporairement, on va dire, l'incapacité, ouais, puisque aussi il sature tous ses détecteurs en fait, avec une lumière laser qui fait qu'en fait, lui, il ne peut pas recevoir d'informations, il ne sert plus à rien. Mais en fait, il y a aussi la capacité, si on pousse un peu plus loin, à brûler le satellite. Donc, alors pas à le détruire, au sens où on ne peut pas le faire exploser, il n'y a pas encore la puissance suffisante sur les lasers actuels, mais ils sont déjà suffisamment puissants pour cramer un satellite et donc le rendre inopérationnel. Enfin, je sais pas comment on dit.
Qu'est-ce que j'aimerais avec mon petit pointeur laser péter tous les Starlink.
Ce serait un petit plaisir.
Mais non, ça ne marche pas encore.
Donc ça, en fait, les armées du monde, enfin, les armées, on va dire, des grands pays, hein, enfin, des pays les plus riches plutôt, disposent déjà de ces technologies. Alors, ils n'en ont pas beaucoup, je ne sais pas exactement. Évidemment, l'armée ne dira jamais combien elle en a, mais... je pense que ça, c'est moins de 10. Quoi. Enfin, on est quand même sur des technologies qui doivent être extrêmement coûteuses, qui coûtent beaucoup d'énergie. Et voilà. En tout cas, elles existent. Et on peut, depuis le sol, incapaciter, voire brûler un satellite en orbite. Il y a aussi une petite remarque que j'ai trouvée intéressante, c'est que toujours dans cette histoire de guerre de satellites, hein, si vous forcez un satellite, entre guillemets, ennemi, à faire une manœuvre, d'une façon ou d'une autre, à devoir éviter quelque chose, à devoir, voilà, ou si vous le déplacez sur son orbite et qu'il est obligé de dépenser de l'énergie pour y revenir, en réalité, vous diminuez la durée de vie de ce satellite.
Eh oui.
Parce qu'en fait, il doit consommer de l'énergie qui n'était pas prévue pour faire sa manœuvre. Donc, vous diminuez en fait sa longévité. Ouais. Donc c'est aussi, même si vous l'incapacitez pas, c'est déjà en fait un acte offensif.
Ouais, ouais. Oui, comme détruire un pont pour qu'une armée ait tout un détour à faire. Enfin, voilà, il faut le ravitaillement qui suit.
Ouais, comme ça. Ouais, ça peut se comparer quoi. Voilà. C'est forcer la manœuvre, fatiguer, etc. Ouais. Quoi. Donc ça aussi c'est des façons de penser la guerre en orbite, quoi, quelque part. Voilà. Alors, je vais quand même parler de cet exemple assez frappant qui s'est passé en novembre 2021, dont on a entendu parler dans les médias. En fait, les Russes ont fait un tir à SAT depuis le sol. Ils ont envoyé un missile sur un de leurs propres satellites qui était en fin de vie. Sauf que, comme par hasard, ce satellite était juste au-dessus de la Station Spatiale Internationale. Donc, en réalité, en explosant ce satellite et en créant des milliers de débris sur l'orbite, ben, en fait, ça a mis en danger la Station Spatiale. Puisque, dans l'espace, hein, tout tourne... Enfin, l'ordre moyen de vitesse, c'est autour de 10 km par seconde, à peu près. C'est un peu ça.
30 000 km/h, quoi. Un peu moins.
Ouais, c'est ça. Non, 36 000, 40 000. Enfin, voilà. Ouais. C'est à peu près ça. C'est ça, les ordres de grandeur. Donc, vous imaginez un éclat de peinture, en fait. Ouais. Un truc de 1 mm à ces vitesses-là. En réalité, vous pouvez... y avait déjà eu le problème avec la Space Shuttle, hein, où ils avaient pris sur le pare-brise là, un éclat de peinture, ou je ne sais plus. Enfin, c'était rien du tout. C'était vraiment un micro-débris. Et ça avait failli causer l'explosion du vaisseau. Quoi.
Ouais.
Donc là, en fait, en novembre 2021, ils ont déclenché quand même la procédure d'urgence d'évacuation sur l'ISS.
Et en plus, l'ISS où il y a des Russes dedans tout le temps. En plus.
Ouais, ouais, non, mais bon, ça... c'est encore une autre histoire. Et finalement, bon, il n'y a pas eu besoin d'évacuer, mais ils étaient prêts à le faire. Et même encore un an ou deux après... actuellement, l'ISS est parfois obligée, en fait, pour éviter ces débris. À chaque fois qu'elle repasse sur son orbite, en fait, près de l'endroit où l'explosion a eu lieu, parfois, ils doivent faire des manœuvres pour éviter certains débris. Oui. Alors, évidemment, c'est du point de vue de... Bon, là, je dis c'est la Russie parce que c'est eux, mais c'est clairement un peu de l'intimidation. Il y a quand même un aspect un petit peu, on vient vous chercher quand même, on vient vous titiller un peu. On ne fait rien de mal, on détruit un de nos propres satellites, mais en réalité, on vous pose des problèmes. Alors, je vais clôturer en fait cette. Alors on en est. Voilà, j'ai pas forcément grand chose de plus à dire déjà parce que c'est tout ce que j'ai pu trouver. Je pense que c'est à peu près là qu'on en est au niveau des technologies. Là, on est en train de parler de choses militaires, donc il est évident que les informations auxquelles on a accès sont relativement limitées. Tout ça étant classé top secret.
Bien sûr.
Mais on a quand même, voilà, on sait quand même dans ces directions-là que les militaires raisonnent et agissent. On rappelle quand même qu'aux États-Unis et en France aussi, peut-être probablement dans d'autres pays, je ne sais plus, mais il y a une branche de l'armée qui est l'armée de l'espace. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, ils ont, aux États-Unis, ils ont un gros commandement militaire dédié à l'espace, et on en a un en Europe aussi.
Ouais, aux États-Unis, c'est la Space Force, je crois.
Ouais, je crois, ouais.
Et en France, c'est le commandement de l'espace, tout simplement.
Bien possible.
C'est rattaché, c'était rattaché à l'armée de l'air, et je crois que maintenant, c'est plus indépendant, ouais. Si je ne me trompe pas.
En tout cas, il y a une partie de l'armée qui s'occupe spécifiquement de ça.
Ouais.
Et voilà un peu les directions dans lesquelles ils vont. Alors, moi, je vais terminer cette chronique en vous parlant de ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. En fait, ce Kessler, en 1978, donc ça date un petit peu, il a commencé à imaginer justement la pollution des orbites par les débris. Donc là, pour continuer un peu sur cette histoire-là de satellites explosés par la Russie près de l'ISS.
Ouais.
Et en fait, ouais, enfin, quand même, j'avais oublié de mentionner ça, mais dans les années 90-2000, il y avait un accord entre les USA et la Russie pour dire on ne fait pas d'opérations militaires dans l'espace. Mais en 2007, la Chine, elle a fait son premier tir à SAT. Donc elle a fait son premier tir depuis le sol pour montrer voilà, sa capacité en fait, à exploser un satellite depuis le sol. Et comme la Chine en fait, ne signe aucun accord, et là, c'est encore pire que la Russie pour le coup, la Chine n'a vraiment mais rien à faire. Quoi. Le traité de l'espace, tout ça pour eux, ça n'existe pas. Et donc depuis 2007, en fait, et ben les États-Unis et la Russie se sont dit, bon ben non, là en fait, on est obligé de nous y mettre en fait. Donc ça fait voilà, depuis plus de 10 ans, enfin même 15 ans, voilà, depuis 2007, qu'il y a des activités militaires, même si c'est toujours encadré par le traité de l'espace qui fait que l'espace est censé rester une zone neutre, etc. Bon voilà, c'était une petite parenthèse pour montrer un peu l'évolution aussi vers laquelle on va. Donc je repars sur ce syndrome de Kessler, où en fait tout simplement il dit, ben... Voilà, réfléchissez, si vous détruisez un satellite sur une orbite, vous créez des milliers de débris. Il y a d'autres satellites sur ces orbites. Donc vous pouvez très bien détruire le satellite qui est à côté. Et en fait, vous pouvez très bien déclencher une sorte de réaction en chaîne, en fait.
C'est ça.
Qui ferait qu'en réalité, bah, d'un coup, vous avez tous les satellites... Enfin, si on pousse le délire, en fait, tous les satellites qui explosent, en fait. Et là, vous vous retrouveriez... On se retrouverait avec une ceinture, en fait, c'est pas une ceinture, c'est carrément une boule, en réalité, de débris autour de la Terre, qui rendrait impossible, en fait, inaccessible les orbites, donc impossible de mettre des nouveaux satellites en orbite, et qui même empêcherait l'exploration spatiale,
quelque part, spatial,
puisqu'on ne pourrait plus passer à travers ces débris. On a déjà eu l'occasion dans l'émission de parler un petit peu de ça. Mais en tout cas, c'est pas du tout... Je crois même qu'il y a un film en fait, qui parle de ça. Autour de la Terre, il y a tout un tas de débris qui fait qu'on ne peut plus partir. Donc, ils sont obligés de tirer avec des gros lasers
pour faire des trous.
Enfin, mais en fait c'est on pourrait très bien basculer dans une situation comme ça si ça dégénérait, quoi. Parce qu'il suffit de détruire quelques satellites en orbite et en réalité, la réaction en chaîne va faire qu'on va être complètement entouré de débris. En fait, ça aurait des conséquences énormes. Parce que maintenant, maintenant on a énormément de choses qui passent par les satellites quand même, en termes de communication, que ce soit Internet, les téléphones, tout le bazar, la météo, évidemment les choses pour les opérations militaires, mais même pour la planification agricole. Enfin bon, il y a plein de choses
la
qui
télé,
dépendent...
Oh putain, au chômage.
Mince. Mais il y a plein de choses qui dépendent en fait des technologies spatiales. Enfin, on s'est rendu dépendant de ces technologies spatiales. Donc si elles étaient amenées à disparaître, en tout cas, ça nous impacterait vraiment fortement. Pour moi, le plus grave, ce serait qu'effectivement, on ne pourrait plus sortir de la Terre, en fait. On ne pourrait plus partir explorer le système solaire, en réalité. Donc voilà. Et donc, il y a aux États-Unis ce qu'on appelle la STRATCOM, c'est United States Strategic Command. Et c'est eux, en fait, qui surveillent tous ces débris. Donc là, actuellement, ils surveillent plus de 15 000 objets qui font plus de 10 cm.
Ah oui.
Donc c'est déjà gros, 10 cm.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Et il y en a plus de 15 000 déjà qui dérivent comme ça. Et donc, ils les surveillent en permanence parce que là, ils savent que si ça touche un satellite, de toute façon, ça l'explose, quoi. Voilà un petit peu pour ces perspectives militaires spatiales. J'avais envie de vous parler de ça dans ce contexte mondial qui marche à grands pas vers la fraternité et la paix entre les hommes. Voilà, on va clôturer là cette émission. On vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.
À bientôt.